Dès la fondation du monde, Dieu a tout créé dans ce but-là. La naissance historique de Jésus à Bethléem décrit donc désormais le mystère de ma propre identité intérieure. La crèche, c'est une parole de Saint Clément d'Alexandrie au IIe siècle, la crèche, c'est mon propre cœur. Et si je vois la crèche à la chapelle, ce n'est que pour me renvoyer à ce qui est en moi. Sinon, on tombe dans le folklore. Jésus est déposé là, à la racine de mon être, comme une semence. Ce germe, justement, qui doit grandir et prendre forme jusqu'à ce que je lui devienne conforme. C'est une parole de saint Paul aux Romains. Et c'est le tout de mon chemin d'homme, devenir le Christ. Si nous avons un autre sens dans notre vie, les pères disent, nous n'épousons pas la création. Et si je n'épouse pas l'intention profonde de la création, je suis un raté de la création. Une parole de père. Et parce que on devient ce que l'on mange, tous les diététiciens nous le répètent aujourd'hui, parce qu'on devient ce que l'on mange, Dieu s'offre à moi dans une mangeoire. Autrement dit, je ne vis vraiment qu'à partir de mon centre-cœur profond. Et si mes désirs multiples trouvent dans cet enracinement leur origine, alors satisfaire un désir à l'extérieur, c'est une véritable Eucharistie. Pourquoi? Parce que le Christ descend également dans le cosmos entier. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses et tout subsiste en lui, comme dit saint Paul. Et toute la création, donc, est pour l'homme, toute la création est pour l'homme la table d'un banquet universel où il est invité à une communion permanente avec Dieu. Et voilà pourquoi l'homme, je ne sais pas si vous avez fait cette observation, elle est très intéressante, l'homme mange sans arrêt. Il se nourrit à chaque instant par ses cinq sens. Bon, nous nous mettons peut-être 3 ou 4 fois par jour à table, mais quand on se regarde de près, nous sommes constamment en train de consommer. Regarder, c'est consommer. Écouter, c'est consommer. Respirer, c'est consommer. Humer, toucher, nous sommes constamment en état de réceptivité. C'est extraordinaire, ce constat expérimental. Donc, l'homme se révèle comme quelqu'un qui a faim. C'est un être qui a faim. Mais curieusement, quoi qu'il mange, c'est un autre constat. Cette faim en lui subsiste. Il y a toujours cette nostalgie. Vous avez remarqué, il faut faire cette constat et descendre dans notre expérience, sinon ça reste des paroles en l'air. Si nous entrons dans notre expérience et que nous en prenons conscience, il y a un éveil qui se passe. Il y a quelque chose qui se met en route et le chemin s'ouvre vers une transformation possible. Je constate deuxièmement, que je peux manger ce que je veux, et tant que je veux, et j'ai toujours faim. Je peux sortir de table dans un état tout à fait pléthorique, constat, j'ai toujours faim. Ma nostalgie profonde est toujours là. Elle est toujours plus béante. Et quand je jeûne, j'expérimente le mystère absolument foudroyant, le grand constate que quelqu'un qui jeûne, c'est la découverte révélatrice du jeûneur, c'est que derrière la faim de pain, de tous les pains, il y a en réalité une faim de Dieu. Derrière tous les désirs de ma vie, il y a l'unique désir de l'unique désiré. C'est l'histoire du Cantique des Cantiques. Nous sommes, en d'autres mots, des amoureux. Puisque Dieu est amour et qu'il nous a créés à son image, l'homme est amour. Et nous sommes comme lui, des amoureux fous. Et tant qu'on ne répond pas à cet amour fou au fond de nous, il y a cette extraordinaire nostalgie qui continue à crier sa faim. Nous sommes des amoureux en quête du bien-aimé. Et le Cantique des Cantiques décrit qui je suis et ce que je fais. Toute la Bible fait que ça. Toute la Bible n'est là que pour me révéler, mais dans le Cantique des Cantiques, ça devient un chant d'amour. Fantastique. Et toute la Bible n'a que deux intentions, c'est de me révéler qui je suis et où je vais. Quel est mon itinéraire, mon chemin. Donc Dieu a choisi toute la création comme le reposoir pour faire de tout, sans exception, le don de sa présence. Et quand nous prenons donc les choses pour elles-mêmes, ce que nous faisons à longueur de journée, quand nous prenons les choses comme une fin en soi, F-I-N maintenant, nous nous trompons de route. Nous coupons les dons qui nous entourent, toute la création est don, jusqu'au moindre brin d'herbe. Pour la fleur, nous le savons facilement parce qu'au moins on dit qu'elle est belle. Donc on la reconnaît comme un don, même si on ne sait pas d'où vient ce don. Mais nous sommes entourés de dons et comblés. Et tout, pas seulement la création, la nature, les événements, les situations, les personnes. Finalement, l'instant avec son contenu et quel que soit ce contenu. Et quand nous coupons les dons de leur origine, nous commettons ce qu'on appelle la rupture originelle. Nous faisons un rapte, nous coupons les dons de leur donateur et nous tombons dans l'absurdité des mécanismes extérieurs purement fonctionnels. On mange alors par pur besoin. Pour satisfaire ses instincts. Vous voyez, l'inouï de la chose. Et quand Dieu est déposé dans une mangeoire et que nous faisons autre chose pour nous ravitailler, ah, c'est une autre façon de faire culbuter l'histoire. Et vraiment, elle culbute. Et nous sommes au bord du précipice. Cette rupture des dons avec le donateur, où l'homme alors cesse d'avoir faim de Dieu seul. C'est des grandes questions qui s'adressent à notre conscience ce soir. Nous avons cessé d'avoir faim de Dieu seul. En coupé de la source de vie, le monde meurt, évidemment, et l'homme alors communie à ce qui est mortel pour lui. Ça, c'est vraiment la chute réitérée tous les jours. S'il y a des guerres, petites ou grandes, c'est uniquement à cause de ça. C'est parce qu'on veut accaparer le bien de l'autre qui, de toute façon, est déjà coupé de son Créateur. Donc l'incarnation de Dieu devient du coup aussi rédemption. Ce n'était pas prévu au programme, passez-moi le mot. Il n'était pas prévu que le Christ vienne en tant que rédempteur. Le Christ ne vient pas d'abord pour me sauver de mon péché, pas du tout. Il serait venu même si l'homme n'avait pas péché. Il faut faire attention parce que la littérature théologique est remplie de ça. que le Christ vient pour sauver l'homme de son péché. Nous disons pas du tout dans l'antique tradition chrétienne qui nous est commune quand même. Nous avons 1000 ans de tradition commune. Le Christ vient pour parachever la création, pour couronner toute la création. Il est l'homme parfait. Il emmène l'homme à la perfection. Mais l'homme s'étant détourné de lui, alors l'incarnation devient aussi, par surcroît, rédemptrice. C'est une recréation tragique. La vieille tradition parle alors, et c'est magnifique, de la Pâque de la nativité du Sauveur, c'est-à-dire que la grotte de Bethléem est comparée au tombeau de Golgotha, les langes de l'enfant divin au linceul mortuaire, le bois de la crèche annonce le bois de la croix, et la myrrhe apportée par les mages préfigure le baume des femmes myrophores accourant au calvaire le matin de Pâques. En le repas de noces offert par la mangeoire de Noël pour des épousailles mystiques entre Dieu et l'homme, contient maintenant l'agneau immolé qui déjà consent dans son amour fou à mourir pour toi. La croix aussi, ce n'était pas il y a 2000 ans. Et ce n'est pas aujourd'hui pour 6 milliards d'hommes. L'amour ne supporterait pas cela. Il meurt pour toi. Pour toi, comme tu étais, si tu étais seul, unique, et tu l'es. Et ça ne rentre pas ici. C'est impossible. On ne peut que se laisser submerger. On ne peut que tituber de joie certains jours. Mais en tout cas, il est dans la mangeoire déjà. L'agneau immolé qui consent dans son amour fou à mourir pour toi qu'il aime. Et il meurt d'amour pour que tu y vives. Ce sont les noces de l'agneau, annoncées par l'Évangile et l'Apocalypse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais le tombeau lui-même devient chambre nuptiale, d'où surgit au matin de Pâques la naissance de l'époux, nouvelle naissance. C'est donc comme sauveur que le Christ descend dans toute l'épaisseur de ma chair pour y naître et me faire renaître à lui. Vous comprenez que la réincarnation n'a aucun sens pour nous, mais vraiment, je ne dis qu'en passant. Comme disait admirablement Saint Charles de Foucault, Jésus ne cesse de descendre. C'est ça Noël. Rien, strictement rien ne lui échappe. Saint Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, énumère seulement quelques-unes de mes ténèbres qu'il vient illuminer du dedans, dans lesquelles il descend. Il dit, par exemple, la tentation. On a peur de la tentation parce qu'on se dit c'est le démon, mais dans la tentation, il y a Dieu. Ou encore la faim, on vient d'en parler. Quand j'ai faim et je me jette à table et j'avale des choses que je réduis à leur extériorité, je pourrais descendre dans ma faim et découvrir qu'elle est une expérience de Dieu. Il est dedans, puisque j'ai faim de lui. Et que ce n'est qu'un Dieu amoureux de l'homme qui a pu déposer dans ma faim une telle faim. La soif, comme un cerf désaltéré, brame après le
courant des eaux.
Voilà la juive qui sait l'écriture par cœur. Ou la fatigue. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut murmurer, râler, se plaindre, prendre des aspirines, ou d'abord découvrir que c'est lui qui est fatigué en moi. D'ailleurs, l'Évangile le dit en toutes lettres. Il était fatigué et s'assied sur le bord de la margelle du puits de Jacob. ou encore l'imploration, les larmes, le deuil, l'esclavage, toutes nos souffrances, nos maladies, ma mort dernière et toutes mes morts quotidiennes, mes enfers et tous mes enfers, mes enfermements et toutes mes situations enfériques. Il est dedans. S'il y a un seul endroit où il n'y soit pas, où il n'est pas entré, il n'est pas Dieu. Il y a quelque chose qui lui échappe. Mais avons-nous ce regard sur la réalité? Et finalement, il entre aussi dans la puanteur même de mes péchés. Jésus n'a jamais péché. Il est Dieu, mais il entre dans mon péché. Il est au cœur de mon péché.